Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Absolument, cher Vincent, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vous retrouvera bien évidemment tout au long du passage de cette procession. Nous y sommes, vous l'aurez compris, cela fait des jours que les Anglais attendaient ce moment. Les Écossais ont pu se recueillir. Maintenant, c'est au tour des Anglais. On a vu tous ces Union Jacks qui flottaient le long du mall. Et on y reviendra bien sûr à cette image. Elle sera omniprésente tout au long de l'après-midi. Une procession qui devrait durer 40 minutes environ. Et vous le voyez, le protocole, le balai qui accompagnera ce cortège funèbre est déjà en marche. Donc on va vivre tous ces instants historique, il faut bien le rappeler. Chaque jour, on a coutume de dire que c'est historique, mais là, on est vraiment dans le cœur de la matrice. Pour m'accompagner cet après-midi et commenter tout cela, Jean Garrigue est là. Bonjour Jean, merci Bonjour. D'être revenu à nos côtés. Ainsi que Bertrand de Kers, merci d'être là. Philippe Delorme est resté en notre compagnie. Puis nous accueillons Andrew Simkin. Vous êtes président de la Royal Society of St. George. C'est un patron des Anglais. Voilà, on va peut-être regarder ces images. Peut-être préciser, parce que le parcours, on sait qu'il quitte donc Buckingham à l'instant pour rejoindre Westminster. Peut-être préciser avec vous, Andrew, ce que représente aujourd'hui Westminster Hall et pourquoi on a choisi cet endroit pour que les Britanniques, parce qu'on veut dire qu'il n'y a pas que des Anglais, bien évidemment, à Londres, viennent se recueillir tout au long de ces longues journées ouvertes au public.
Tout le monde connaît Big Ben, Westminster, le palais de Westminster. C'est un bâtiment qui est magnifique, mais qui date du 19e siècle. Westminster Hall, en revanche, date pratiquement de l'époque de Guillaume le Conquérant. Vaguement français, si vous en souvenez.
Donc on a privilégié, absolument, on a privilégié l'histoire, bien évidemment.
Et exactement, donc ça date de la fin du 11e siècle. C'est construit dans un premier temps par le fils de Guillaume. Et donc c'est un lieu d'histoire, un lieu de fêtes, de jugements, de moments très importants dans notre histoire. Et c'est magnifiquement beau.
Alors, on aura l'occasion de le voir, bien sûr, d'ici quelques minutes. Je vous propose de s'attacher aux images. Bertrand, je sais que vous avez beaucoup des trivia à nous donner, des petites anecdotes, des informations sur le protocole qui a été choisi. Peut-être commenter l'image que vous apercevez là.
La presse, en tout cas, nous a donné énormément de détails. Et entre autres, voilà des petits détails qui amusent un peu le grand public en sachant que ce fameux affût de canon, il est tiré par 6 chevaux noirs, voyez-vous. Il y en a un qui mène vraiment la parade, qui mène vraiment le cortège et le cheval de tête, comme on l'appelle. Il s'appelle Cassius. Et pour la petite information, il est entraîné tout spécialement parce que le rythme que vous voyez là, il est très difficile, même pour des professionnels, à devoir emprunter, puisqu'on va plus lentement que le pas normal. Donc, il n'a qu'un pas d'homme. Donc imaginez pour un cheval ce que c'est. Et ce petit cheval du nom de Cassius, sachez qu'il a servi déjà pour les obsèques de Margaret Thatcher en 2013. Donc il est déjà habitué à ce genre d'événement.
Alors on disait dans la voiture, souvenez-vous, la procession écossaise, qu'il n'y avait qu'une couronne qui recouvrait le cercueil. Là on voit qu'on y a posé à côté couronne de fleurs, précision, la couronne. Et là, c'est tout à fait différent.
C'est la couronne impériale d'État, qui est une des couronnes royales, enfin, au niveau de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. La couronne de fleurs était déjà en Écosse. Et ça, c'est quelque chose d'immuable, parce qu'on l'avait déjà aux obsèques de George VI en 1952. Alors, ce sont des fleurs blanches. Je crois qu'il y avait des fleurs écossaises, hein, je crois, Bertrand.
Absolument, donc c'est des bruyères qui ont été cueillies à Balmoral, à ce domaine.
Et donc aussi à l'enterrement de la reine-mère en 2002, la même couronne. Donc ça, c'est le côté immuable, cette couronne blanche, on la retrouve à tous ces enterrements. C'est un peu une tradition qui remonte, je pense, même à la reine Victoria.
Hein, absolument. Absolument, on peut peut-être dire que c'est depuis Victoria qu'on connaît ces obsèques un peu à grand spectacle, entre guillemets. Avant Victoria, ça n'existait pas du tout, c'est Victorien en 1901 qui va un peu donner le ton de ce que l'on voit là. Et pour donner un peu plus de précision sur cette fameuse couronne impériale, sachez quand même qu'elle pèse 910 grammes. Elle est composée de 2686 diamants, 237 perles, 17 saphirs, dont le fameux saphir des Stewarts et le rubis du prince noir.
Ah, la voici, on la voit en gros plan. Voyez, vous parlez, elle apparaît. C'est magnifique.
Et voilà, voyez, on est
le prince noir, dont on a gardé un mauvais souvenir, puisque c'était le fils d'Édouard III, qui au début de la guerre de Cent Ans a pas mal ravagé la France.
Fait des misères.
Il nous a fait des misères.
Mais on ne le notera pas aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va relever.
Lorsqu'elle la dépoussera à Westminster Hall, pardon, donc cette fameuse couronne va être rejointe de ce qu'on appelle le sceptre du souverain. Vous allez voir, c'est assez glorieux, et l'orbe également.
Alors là, c'est évidemment tout l'apparat, toute la splendeur de la couronne britannique hein, qui est... présenter, voilà, cette image, c'est celle qu'on attendait.
Les enfants
d'Elisabeth II, et puis toujours, évidemment, Andrew, qui, lui, ne revêt pas l'uniforme.
Le seul qui ait fait la guerre ne porte pas l'uniforme, effectivement.
Et vous voyez Harry, également, au second plan, qui, lui aussi, est en tenue civile, puisque lui aussi a été... on lui a retiré son prédicat d'altesse royale, et ce sont les deux seuls, pour le coup.
Harry, on lui a retiré, ou s'il a dit qu'il ne l'utiliserait plus, en tout cas.
Non, oui, mais Elisabeth II l'a vraiment retiré.
Est-ce que Charles et le roi Charles est habillé de la même manière ou a le même costume
alors,
que celui qu'il avait revêti?
Alors, je parle sous la contrôle d'un Britannique qui va peut-être. Il avait, j'ai l'impression, l'ordre du Chardon vert en Écosse.
Et là,
c'est-à-dire une sorte de.
D'écharpe.
Écharpe. Là, c'était le. Et là, il doit avoir, j'imagine, plutôt la jarretière ou je ne sais pas quelle. Ou les ordres, différents ordres britanniques en tout cas, mais en Écosse il avait, voilà, il s'était scotisé si l'on peut dire. Oui, là il est effectivement, il n'a pas le même.
Très intéressante image, vous voyez toute la solennité et la gravité des visages des enfants d'Elisabeth II. Jean Garrigue, un petit commentaire, qu'est-ce que ça vous inspire jusqu'ici cette procession?
Ça m'inspire effectivement cette grandeur qu'on a pu mesurer depuis plusieurs jours. Là on arrive peut-être à l'acmé de ces événements, de ce grand spectacle chronométré, puisque je crois qu'il y a 28 minutes pile entre le Buckingham et Westminster. On est au que 30 minutes
38.
Ah bon.
38 minutes, oui.
On est parti à 22.
J'avais entendu 28.
Il est prévu que la procession arrive à 16h.
Hier matin, à 4h du matin,
voilà, ils se sont entraînés.
Les londoniens très matinaux ont pu voir la procession, puisqu'ils ont répété d'un bout à l'autre à 4h du matin, dans la nuit, avec un faux cercueil. Enfin bon, tout était pour que ce soit exactement bien calé. Hein.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on était au cœur, en plus de l'histoire britannique, parce que de Buckingham à Westminster, vous êtes dans ce qu'on appelle la ville de Westminster, c'est le cœur historique
du
et politique
et du pouvoir.
Et du pouvoir. Donc c'est très important.
Que le Westminster au Moyen-Âge, ça veut dire le monastère de l'Ouest. Hein,
c'est-à-dire
qu'on avait construit
à l'ouest de la cité.
La ville elle-même, un monastère qui était aussi un palais royal. Et donc les rois au Moyen-Âge vivaient à Westminster. Et donc aujourd'hui, Westminster, c'est à la fois effectivement le Westminster Hall qui est le symbole de la monarchie depuis 1000 ans, qui est la dynastie anglo-normande. Et puis à côté, le Parlement, c'est-à-dire la monarchie britannique qui est aussi parlementaire et démocratique. Donc il y a les deux aspects finalement dans le même bâtiment.
Le parcours est savamment étudié, vous en doutez, mais là voilà, on est vraiment dans l'endroit le plus important, puisque le cortège vient de s'engouffrer sur le mol, vous le voyez d'ailleurs avec le nombre de drapeaux qui flottent sur les arbres alentour. Beaucoup de monde, mais finalement le public est quand même assez restreint sur le périmètre qui entoure directement ce mol. On n'a pas de profondeur de champ, peut-être avec la caméra, mais on voit quand même que sans doute on a restreint l'accès à cette esplanade, parce que c'est ainsi qu'on peut la qualifier finalement, c'est une sorte d'esplanade le mol.
On rappelle que le mol fait précisément 950 mètres de long, mais alors on dit surtout que la foule en réalité elle est déjà en train de se masser à Westminster.
Sur les 5 km ou 6 km pour faire la queue, donc il doit y avoir déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui campent le long de la...
Il y a des chiffres qui circulent et qui nous disent 1 million de personnes seraient peut-être en train de vont peut-être se recueillir sur Elisabeth II, et on n'est même pas sûr que lundi, lorsque les visites entre guillemets seront finies, sur le coup des 7h30 8 du matin, tout le monde aura eu l'occasion de se recueillir. On n'est pas certain que tout le monde va pouvoir, dans le fond, s'incliner devant la dépouille.
Andrew Simkin, a-t-on des informations sur ces hommes qui sont en uniforme, ces différents corps d'armée qui entourent le cercueil? Parce qu'il y a beaucoup d'uniformes évidemment différents. Il y a ces cavaliers aussi qui sont avec des uniformes assez, distincts hein, des autres. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ces corps d'armée qui ont été choisis? Ils représentent
tout. Vous voyez bien ces chapeaux spectaculaires qui tiennent bien chaud quand il fait 40 degrés lors du temps caniculaire à Londres que nous connaissons bien. Ce sont les Busbys.
Les Beefeaters.
Le Beefeaters, la garde rapprochée de la reine. Donc il est normal que.
Ils sont un peu plus nombreux que les autres.
La protéger. Ouais. Nous avons vu les Horse Guards Parade, les Lifeguards tout à l'heure. Donc. Tous les corps de l'armée les plus proches de la reine vont défiler avec elle. Il y a 800 soldats, paraît-il, qui vont
autour du cortège. Bertrand de Kers.
Le palais nous disait, que je parle sous votre égide, dites-moi, ce serait le régiment d'artillerie des grenadiers de la reine devenu le régiment d'artillerie des grenadiers du roi.
Je ne sais pas si on a une de nos équipes en place qui peut peut-être justement répondre à la question qu'on se posait en termes d'affluence. Je ne sais pas si Vincent Fahandège, par exemple, qui était positionné sur ce... Alors, on le rejoindra tout à l'heure. On voit déjà toute l'émotion qui s'emprunt des visages. Hein. C'est assez significatif. On l'a beaucoup vu aussi en Écosse, lorsque les gens venaient rendre un dernier hommage.
Je crois que c'est une émotion...
Mais on voit vraiment que cette émotion n'est pas feinte.
Non, mais c'est aussi l'émotion lorsqu'on est... Vous savez, une foule, enfin, un ensemble d'individus n'ont pas des réactions psychologiques que des individus eux-mêmes. Enfin, c'est la psychologie des foules, des masses. Hein. C'est vrai que quand on est pris dans une cérémonie comme ça, je pense qu'on serait tous plus ou moins, émus à plus ou moins.
Je pense aussi le simple fait de voir cette boîte avec cette personne aussi importante dedans. On sait que c'est elle. On sait qu'elle est à quelques mètres. En plus, on voit les visages de ses enfants devant soi. C'est bouleversant.
Ils ont tous vécu sous son air. Hein. Très très peu sont ceux qui. Ont connu Georges VI finalement. Hein,
et puis Philippe et moi, depuis quelques jours, nous vous disions ici que vous allez voir le volet dans le fond lorsqu'il va devenir londonien, pardon, va devenir beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus protocolaire. On le voit sur ces images. C'est, je trouve, l'image la plus protocolaire, la plus émouvante, que l'on a eu à voir depuis
plus de voitures, plus de
ces célébrations, plus de corbières motorisées, vraiment en affût ici, de 7 chevaux noirs. C'est quelque chose de rarissime, 7 chevaux noirs.
Je crois que 90% des Britanniques sont nés sous Elisabeth. Donc effectivement, c'est une... Il faut avoir 80 ans pour se souvenir d'une période...
Une souveraine discrète, mais néanmoins omniprésente dans leur quotidien.
Les derniers sondages montraient que 27% des Britanniques souhaitaient l'abolition de la royauté. Moi, je serais curieux de savoir ce que donneront maintenant des sondages, et je suis persuadé que ce nombre va diminuer.
D'autant qu'on a vu, et on le commentait ensemble il y a seulement 24 heures, la cote de popularité de Charles III a doublé. Et donc effectivement ça a changé la donne.
C'est un peu faux de se poser des questions. C'est comme si en France on se posait la question de la République. En fait, ça, la question ne se pose pas, je pense, pour la plupart des Britanniques. C'est
le régime. Pour le Commonwealth,
oui, c'est ça, mais pour les Britanniques, c'est le régime qui est. Enfin, c'est comme si en France on se
Il y a quelques pays qui sont tentés, hein, comme la Nouvelle-Zélande, hein, on le voit aussi, ça bouge.
L'Australie. C'est intéressant, l'Australie, on vient de poser la question au Premier ministre, il a dit. Pas pendant mon mandat. Il n'y aura pas de référendum. Ça montre bien ce que vous disiez avec l'émotion que nous procure.
Ça rebat les cartes politiques.
On n'a pas envie de faire ça.
Je pense que
un dernier mot et puis on va retrouver Florian Tardif qui nous attend, lui, du côté de Westminster précisément. Allez-y, Bertrand.
Peut-être dire que dans le cortège, on a également reconnu Peter Phillips. Hein. Peter Phillips qui est le fils de la princesse royale de la princesse Anne. Son mari, Timothy Lawrence, qui a été mis fort en avant, le vice-amiral, puisqu'il a repris avec son épouse, il a rapatrié la dépouille à bord de l'avion. Il y a également le duc de Gloucester, nous apprend-on, qui est dans ce fameux cortège, et le comte Lord Snowdon, qui est le fils de la princesse Margaret, vous savez, la regrettée sœur.
La sœur, oui.
Peut-être pour refaire un peu de généalogie, George VI, donc le père d'Elisabeth, avait trois frères, enfin il y en a un qui est mort très jeune, mais enfin après il y avait le duc de Kent et le duc de Gloucester, qui sont tous les deux morts, mais enfin qui ont une descendance. Donc il y a deux familles royales, enfin deux branches de la famille
de la
royale
famille.
Qui s'appellent les Kentenkisters.
Ils font partie de la famille royale et ils sont dans l'ordre de succession. Partie, voilà.
D'ailleurs, on s'interrogeait il y a encore quelques jours sur la présence réelle des membres de la famille, notamment aux obsèques à proprement parler, aux funérailles lundi. Est-ce que ce sera une cour réduite à 28 ou au contraire élargie à 60 personnes, ou grosso modo c'est ce que comporte la famille royale au sens large? Florian Tardif, parce que je sais qu'il nous attend. Vous êtes avec nous, mais du côté de vous, du point d'arrivée de ce cortège, c'est-à-dire devant Westminster Hall. On disait tout à l'heure, c'est sans doute là que le public va se masser le plus nombreux. Est-ce que c'est l'observation que vous en faites en ce moment?
Oui, tout à fait. Depuis plusieurs heures maintenant, le public s'est massé autour de cette artère qui mène jusqu'au palais de Westminster, qui est le Parlement britannique. Alors je parle très doucement, tout simplement parce que depuis plusieurs minutes maintenant, depuis que le cortège funèbre a quitté Buckingham Palace, le silence s'est installé dans les rues de Londres. On respecte ce qui est en train de se passer. Vous pouvez peut-être entendre actuellement que Big Ben est en train de sonner un coup feutré par minute, un coup de canon également depuis Hyde Park. Et cette population que vous voyez sur les images d'Antoine Estève qui s'est massée le long de la Parliament Street qui mène donc à Westminster, au palais de Westminster, et qui attend dorénavant silencieusement le cercueil de la reine qui sera transporté donc grâce à cet affût de canons, avec la présence derrière ce cercueil de la famille royale, bien évidemment du roi et de ses deux fils, particulièrement William et Harry.
Florian, un mot sur les Britanniques qui sont autour de vous. On a vu, nous on voit à l'image sur le passage du cortège, beaucoup de générations. On voit des personnes qui étaient des contemporains de la reine, mais aussi des enfants qui l'ont beaucoup moins connue. On sent que vraiment là, on a envie, toutes générations confondues, d'assister à ce qui est vraiment, mais là le mot n'est pas galvaudé, à un moment, on a tendance à dire historique à toutes les sauces. Là, c'est historique aujourd'hui.
En tout cas, c'est une leçon d'histoire pour ces jeunes.
Florian, vous confirmez que toutes les générations sont venues, on est venus en famille?
Oui, tout à fait, c'est un moment historique, tout simplement, et cela a été rappelé sur votre plateau il y a quelques minutes. Plus de 80% des Anglais n'ont connu que la reine. Et d'ailleurs, je me suis entretenu assez longuement hier lors du passage du convoi funéraire qui transportait la reine dans son cercueil jusqu'à Buckingham Palace. C'était le premier point de passage avant que ce cercueil ne soit transporté jusqu'au hall de Westminster, là où nous nous trouvons. Et je discutais donc avec une jeune femme de 25 ans qui m'expliquait que c'était impensable, qu'elle n'arrivait pas à croire que la reine puisse être morte depuis plusieurs jours maintenant. Elle nous expliquait: j'ai besoin de voir cela de mes propres yeux, j'ai besoin justement d'être avec la foule, de me masser comme cela le long du trajet où passera le cercueil de la reine tout à l'heure, tout simplement pour voir ce cercueil de mes propres yeux, parce que bien évidemment j'ai entendu ces derniers jours les informations m'expliquaient dans un premier temps que la reine n'allait pas bien, puis dans un second temps que la reine était morte, mais elle n'y croyait pas. Elle a assisté à une messe ce dimanche, elle ne se rend jamais à l'église, mais elle voulait assister à une messe pour témoigner de son profond respect vis-à-vis de la reine. Et à la fin de cette messe, elle nous a expliqué qu'ils avaient chanté collectivement God Save the King, le nouvel hymne dorénavant ici au Royaume-Uni, et c'était impensable qu'on ne puisse plus prononcer le mot Queen, que dorénavant le nouvel hymne serait God Save the King. C'est ce qu'elle nous expliquait, et c'est à cet instant-là que j'ai compris que la reine était morte, et c'est peut-être pour cela que la population se réunit, toutes tranches d'âge confondues. Bien évidemment, nous avons vu se masser le long donc de ces principales artères de la capitale, des jeunes, parfois ils ont 5, 6, 7, 8, 10 ans avec leurs parents. Il y a des étudiants également qui sont présents, certains étrangers également qui n'étaient que de passage ici dans la capitale londonienne et qui se sont retrouvés au beau milieu d'une cérémonie qui marquera très certainement ce 21e siècle et qui profite donc de cet instant pour eux aussi communier avec la population anglaise.
Merci Florian, on vous retrouve tout à l'heure puisque le cortège bon an mal an est en train de s'approcher bien sûr de l'endroit où vous vous trouvez. C'est intéressant ce qu'il dit sur la matérialisation de ce moment, parce qu'on vit un peu dans un temps suspendu.
le fait de le vivre en collectivité, en groupe, ça change complètement les choses. Mais à propos de tout, je voulais faire une petite correction. Le roi George VI n'avait pas que deux frères, il en avait un troisième, bien évidemment, qui était Édouard VIII, qui était son frère aîné. Et c'est bien pour lui, à cause
celui
de l'abdication d'Édouard VIII, qu'il avait...
Ah, on a essayé de l'éloigner de la famille, voilà. Mais voilà, même
et
dans les livres d'histoire.
En 1952, alors... au moment des obsèques de George VI, Édouard VIII, qui était devenu duc de Windsor, est venu à Londres, il a pris sa place dans le fameux cortège, juste derrière le cercueil, mais on avait demandé à son épouse, la fameuse Wally Simpson, de rester un petit peu à l'écart, de ne pas se mêler aux festivités, enfin aux célébrations.
Et un peu comme on a tenu à l'écart un peu Meghan ces dernières
pour
des raisons tout à fait différentes.
Non,
et c'est 1936 et cette crise d'abdication, on peut le dire, qui va voir la vie d'Elisabeth II basculer. Elle a 10 ans à l'époque et c'est à ce moment-là vraiment qu'elle devient l'héritière du trône, que l'on comprend. C'est lorsque son père accède au trône que l'on sait qu'un jour ce sera à Elisabeth II de devenir un jour la souveraine.
Elle disait d'ailleurs qu'elle priait pour qu'elle ait un petit frère qui passe avant elle, mais enfin, en tout cas, elle était, même depuis sa naissance, elle était, étant donné que...
Pressentie, elle était duchesse.
Le prince de Galles était célibataire, endurci, on ne le voyait pas tellement marié, fondé une famille, donc elle a été, dès sa naissance, un peu la petite princesse vers laquelle tous les yeux étaient tournés, hein, même avant que son père ne devienne roi.
Et puisqu'on est un peu dans les petites anecdotes, en 1936, au mois de janvier, on enterrait George V. Et lors de cette procession que l'on voit pour l'instant, il y avait la couronne, le globe et le sceptre. Ils avaient été placés sur le cercueil. Alors qu'ici, on voit qu'il n'y a que la couronne. C'est peut-être un élément qui nous différencie un peu. Et il est arrivé que le sceptre roule et tombe par terre. Ah bah. Et ça a été quelque chose d'assez spectaculaire parce qu'on s'est dit « c'est présage de malheur ». Et en effet, dans les 11 mois qui ont suivi, Édouard VIII, le nouveau souverain, il a abdiqué.
Et on raconte aussi que Victoria avait fait une prédiction. Alors, elle était peut-être extra-lucide. Elle disait, la couronne d'Angleterre va probablement choir ou en tout cas avoir de graves difficultés dans les décennies à venir. Donc oui, ça c'est effectivement passé.
Et je suis heurté parce que quand on sait qu'en monarchie, rien ne change jamais, le fait là de n'avoir que la couronne, dans le fond, on pourrait peut-être se dire qu'on a peut-être tenté d'éviter une épine dans le pied du prince Charles.
Je pense que vous avez mille fois raison. J'ai lu que l'orbe, justement, le globe et le sceptre seraient sur le... J'ai lu ça.
Oui, je trouve ça très interpellant, là.
Mais ils y seront peut-être à poser plus tard. Peut-être qu'on les
non, mais c'est un peu, effectivement...
Il aurait fallu les visser pour que ça ne bouge pas.
Quand on sait ce qui est arrivé au précédent Charles d'Angleterre, Charles Ier et même Charles II...
Les deux précédents.
Il faut éviter les mauvais
présages. Le premier a été décapité, le deuxième a quand même restauré la monarchie.
En même temps, voilà.
Mais le deuxième a eu du mal.
Il n'allait pas changer son identité.
Non, à 73 ans, il était difficile de reprendre un autre prénom.
Très compliqué. Tout le monde l'identifie.
Puisque l'on parle de Charles II, on pourrait peut-être dire, enfin je parle sous l'égide des spécialistes, mais que tous les joyaux que l'on va voir datent du règne de Charles II, notamment cette fameuse, pas la couronne, pas celle-ci, mais le sceptre et l'orbe, datent de 1661, je crois.
On est sur tout cas, il avait, Charles II avait été exilé en France, il avait été exilé en France, où il avait été accueilli par son cousin Louis XIV. Et puis, donc, il est revenu un peu dans les wagons de la France avec le fameux général Monck, qui a été celui qui, après Cromwell, a restauré la monarchie. Il faut relire les Trois Mousquetaires, enfin, surtout...
Cromwell ne l'avait pas restauré.
Pas 20 ans après. Après, le fils Cromwell s'est écarté.
C'est la destruction créatrice, comme on dit.
Alors, intéressant, là, on a changé, en fait, le parcours, engouffré dans une autre artère.
Alors là, c'est intéressant.
Voyez, les drapeaux maintenant sont ceux des pays du Commonwealth.
Voilà, donc, ça c'est intéressant à montrer. On les avait déjà vus au moment du jubilé.
Moi, je ne les connais pas tous par cœur. Peut-être que je vais faire appel à votre science, aux uns et aux autres. Mais
au moment du jubilé, en juin, il y avait déjà eu à peu près la même décoration avec les drapeaux du Commonwealth. Bon, alors non, c'est difficile. Moi, je ne les connais pas tous non plus. Ceux qui ont un petit drapeau britannique. Dans le haut, là, il y a certainement l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont ça. Les autres sont des pays moins...
Parce qu'il y a une quinzaine qui sont les royaumes.
Exactement,
c'est cela.
Donc, il y a une quinzaine qui... Oui, c'est ça.
Et donc, on garde le... Eux gardent... Non, parce que le Canada est un royaume, mais ils ne gardent pas quand même le côté britannique.
Il y en a une quinzaine qui ont pour monarque.
Pour monarque, voilà.
Ah oui, parce qu'il y a aussi un autre royaume qui est le royaume des Tonga, où il y a un monarque local. Ouais. Vous savez, il y a aussi des rois en France, parce qu'à Wallis et Futuna, qui sont des territoires d'outre-mer, il y a trois rois qui sont reconnus par la République. Voilà.
Et on rappelle qu'Emmanuel Macron est prince d'Andorre.
Et il est prince, il est co-prince d'Andorre. Voilà. Et chanoine de Saint-Jean-de-Latran.
Est-ce qu'on sait où sont, vous parliez des joyaux, des pierres, est-ce qu'on sait où ils sont conservés d'ordinaire depuis tout ce temps?
À la Tour de Londres.
Très précisément dans un...
On peut aller les voir, on peut aller les voir.
La Jewels Tour, et ils sont au rez-de-chaussée d'ailleurs, ce qui est quand même un petit peu incongru.
Ah oui.
Parce qu'en cas de vol, c'est quand même l'endroit le plus accessible, en quelque sorte, le rez-de-chaussée. Soyez rassurés, ils sont, nous dit-on, sous trois vitres blindées qui se suivent vraiment. C'est un système, un dispositif qui est quasiment unique au monde.
Et on sait bien que personne ne s'est jamais évadé de la Tour de Londres, sauf à l'époque des rois maudits. Là.
Mais puisque l'on parle de la couronne, du globe et du sceptre depuis tout à l'heure, et bien, il y a quelques jours, ils ont quitté cette fameuse Jewels Tour pour rejoindre, ils ont été sortis de leur écrin en quelque sorte, chose qui arrive de façon rarissime, parce que pour le globe et le sceptre que l'on va voir tout à l'heure, ce n'est que lors des couronnements. Ouais.
Et au même moment, on a vu les voitures, je vous redonne la parole, mais on a vu, juste pour ceux qui prendraient l'antenne, nous rejoindre sur l'antenne maintenant, les voitures du reste du cortège qui transportent donc la reine consort Camilla, ainsi que Catherine, la nouvelle princesse de Galles, qui suivent le cortège, qui partent avec un petit peu de retard pour pouvoir les rattraper sur le parcours et ne pas coller aux piétons qui avancent donc un pas un petit peu plus limité. Simkin.
Je ne connais pas bien Londres, ce n'est pas le fameux terrain sur lequel avait eu lieu la parade du jubilé, là. J'ai l'impression qu'on voit ce terrain sablé, là.
Il s'entraîne fréquemment.
Vous vouliez dire quelque chose, là?
Oui, je voulais simplement dire que les bijoux de la reine sont installés dans une structure que l'on pourrait qualifier de française. Parce que c'était aussi une construction de l'époque de Guillaume le Conquérant, la Tour de Londres.
C'est vrai.
Mais c'est le centre historique, finalement, le vrai centre historique. Enfin, c'est là qu'était la ville romaine, finalement. Enfin, Londinum. Enfin,
oui, c'est voilà, on est à... la cité.
C'est la cité antique, la cité antique.
On peut peut-être dire qu'en effet, Philippe Delorme a raison, le nom m'échappait, c'est Whitehall. Ils sont en train de traverser Whitehall, qui est donc l'endroit où chaque année, vous savez, la reine fête officiellement son anniversaire lors du Trooping the Colour. Et ici, c'était un jeudi, c'était il y a au mois de juin, seulement, et comme les choses ont changé depuis...
Il y a trois mois pour parler de ça, oui.
Alors, même si elle est née au mois d'avril, on fêtait traditionnellement l'anniversaire de la reine. Chaque année, on le fête au mois de juin.
Cette journée radieuse, c'est quand même suffisamment rare pour le signaler. C'est un soleil radieux qui inonde Londres.
De la reine,
les éléments sont réunis là.
Quand il y a un événement historique comme ça, que ce soit le 11 septembre ou l'enterrement de la reine, il y a toujours du soleil. C'est extraordinaire.
Victoria, on parlait ça de Queen's Weather, le temps de la reine. Hein, c'était
à
Victoria, quand elle sortait, il paraît qu'il faisait toujours beau, ce qui est le contraire du président Hollande. Il avait toujours de la
et quand elle était en Écosse,
oui, un peu, peut-être.
Il faisait très moche à Londres. Et dès qu'elle était rentrée à Londres, il faisait beau, mais c'est tout à fait...
Toute l'expression ramener le soleil, elle le faisait dans son quotidien.
Et le fait qu'hier, elle est arrivée à Londres sous la pluie, c'était un peu comme si le ciel pleurait aussi. La symbolique est très forte.
On peut toujours trouver...
Oui, on peut toujours trouver un symbole à peu près à chaque situation météorologique.
C'est toujours décorant.
Mais moi, je suis quand même frappée par ces visages figés là, des enfants et du reste de la famille.
Ils sont certainement émus, sincèrement, parce que c'était vraiment un personnage qui était central dans leur existence. Enfin, bien
évidemment. Oui, mais comme vous le savez bien, nous n'avons pas le droit de pleurer en Angleterre.
Non, bien sûr. Mais
never complain.
Never cry.
Mais là, vous voyez, en plus, ils avancent du même pas. Enfin, je veux dire, tout a été savamment préparé. C'est quand même...
Donc, effectivement, derrière, il y a des
Gloucester. Charles qui a quand même 73 ans.
Oui.
73 ans et qui se fait tout le parcours de
2 km. Charles a une fraîcheur. Il a encore découvert son destin.
Nous parlerons de Charles tout à l'heure. Nous parlerons de Charles parce qu'il a déjà fait parler de lui, vous le savez.
Oui. La vie commence à 73 ans.
Sur Internet, qui sont déjà virales. Au moment de la signature, vous avez vu la séquence de l'encrier, il peut faire ça.
Oui, mais je peux vous expliquer ce qui s'est passé.
Alors, que s'est-il passé?
Parce qu'en fait, la tutosphère de gauche d'Angleterre a dit « Je ne supporte pas cet homme, il est irrespectueux du peuple. » Il faut voir ce qui s'est passé. On ne s'est pas occupé de lui. C'était le premier grand moment de son règne. Il voulait simplement signer. Il y avait toutes sortes d'obstacles à sa signature. Mais c'était incroyable. Il y avait des milliards de gens qui regardaient. Et son staff n'avait pas fait le job. Et en plus, William est passé, qui est gaucher. Donc, il a tout déstabilisé de nouveau. Donc, tout le monde était malheureux. Moi, je trouve que Charles avait tout à fait raison d'exprimer un début d'agacement.
Ça s'est beaucoup vu.
Il y en a eu une seconde.
Il y en a une seconde avec le stylo qui fuit.
Oui, mais enfin,
il n'a pas de chance avec le stylo.
Si ça aurait été Poutine, il aurait fait fusiller le premier rang.
Et il a dit... Ça se passe toujours comme ça, et il y a toujours un stylo qui fuit. Donc, visiblement, ça se reproduit assez souvent, quand même.
Oui, mais c'est un complot républicain, c'est évident.
C'est les Français.
Moi, je dis que c'est la malédiction des chars.
Pour vous, c'est la malédiction de Charles qui est en train de se mettre en place dans
Non, mais ça, ce sont des petits détails. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un...
Alors, un commentaire sur cette voûte et sur cette arche qu'on est en train de franchir, peut-être.
Alors là, c'est Whitehall, alors c'est ça ? Non, c'était...
Est-ce qu'on est à Whitehall, là ?
Kit Whitehall, là, nous dit-on, il se dirige vers le cénotaphe. Mais où en est-on exactement ?
D'après l'heure, on a fait quand même les deux tiers du parcours, là, visiblement.
Ah oui, oui.
Si ça a été bien calculé comme il le faut. Je ne sais pas si l'une de nos équipes en place sur ce parcours peut nous rejoindre ou qu'on peut solliciter à nouveau.
Parle-moi, si tu veux. Non.
C'est là qu'ils se sont pour faire leur... Que les gens se font photographier avec les...
Avec lui. Et juste à l'autre côté, il y a un peu...
Voilà, c'est vraiment l'ultime... Là, ça y est, on le voit bien quand même, hein, ce rôle.
De l'ancienne génération reste finalement le cousin Kent, le duc de Kent, qu'on a vu...
Qui était présent avec elle
sur le balcon. Qui était présent sur le balcon avec la reine en mois de juin et qui aussi est grand maître de
Florian Tardif. Florian Tardif, vous êtes avec, nous. Est-ce que vous apercevez déjà ou vous entendez déjà retentir la musique qui accompagne le cortège là où vous vous trouvez ?
Oui, tout à fait, Nelly. Le cortège funéraire est en train de rejoindre le hall de Westminster. Il se trouve actuellement sur la Parliament Street. C'est cette grande rue pour arriver au Parlement. Et d'ailleurs, le cortège funéraire passera dans quelques secondes à peine devant le 10 Downing Street, puisque c'est l'une des rues perpendiculaires à la Parliament Street ici à Londres. Donc c'est la dernière grande avenue la dernière grande avenue avant d'arriver jusqu'au hall de Westminster. On commence à voir le cortège, vous le voyez très certainement sur les images d'Antoine Estève qui est en train de se diriger jusqu'à nous. Vous parliez tout à l'heure de la reine consort qui était accompagnée de Catherine, la nouvelle princesse de Galles. Toutes deux sont arrivées il y a quelques minutes maintenant et sont d'ores et déjà présentes dans cette grande salle qui est le hall de Westminster où se tiendra une très courte messe présidée par l'archevêque de Canterbury, et comme vous voyez sur ces images, le cortège funéraire qui avance à pas lents et qui doit être en train de passer juste devant le 10 Downing Street et va continuer sa route donc jusqu'au bout de cette rue qui est la Parliament Street avant d'arriver juste là où nous nous trouvons devant le Parlement britannique avec Big Ben qui continue de sonner un coup de cloche, un son très feutré. Un coup de cloche par minute, en même temps qu'un coup de canon qui est tiré chaque minute depuis Hyde Park, qui est l'un des plus grands parcs ici dans la capitale londonienne. Donc on attend d'une minute à l'autre, vous l'avez compris, le cortège funéraire qui devrait passer devant nous avant de rejoindre cette salle qui date du 11e siècle, qui est le hall de Westminster.
Merci Florian, merci beaucoup.
On remarque que tout à l'heure, enfin, on voyait passer des soldats, ils ont le fusil à l'envers, avec le canon à l'arrière vers le bas, oui. Ce qui est un signe de deuil aussi. Habituellement, on le porte dans l'autre sens. Et puis, un petit détail qui commence un petit peu à m'agacer, c'est le terme de dire toujours « reine consort ». Elle est reine, tout simplement. On ne dit pas la reine consort Laetitia d'Espagne ou la reine consort Mathilde de Belgique.
C'est le titre que la reine lui a
donné. Non, mais elle est reine. Elle est reine, oui. Elle est reine comme la reine mère était
reine. Elle est reine, mais non régnante.
Enfin, elle est la reine, épouse.
Non souveraine. Enfin,
c'est tellement nouveau qu'on établit encore.
Oui, je pense que ça disparaîtra.
On a besoin de créer effectivement un parallèle avec Philippe. Oui.
Votre correspondant parlait de Big Ben, en effet, du son très feutré. On peut peut-être dire qu'elle a été en travaux, hein, Big Ben, pendant très 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 longtemps. Et Big Ben, c'est le son de la cloche en réalité. Ce n'est pas tellement le son de la tour. La tour, c'est l'Elizabeth Tower. La tour Elizabeth, elle a été renommée en portant le nom d'Elizabeth depuis 2012, depuis le jubilé du diamant. Et cette fameuse cloche dont on parle, elle pèse 13 500 kilos, 13,5. Et elle sonne quand même de façon très très particulière. Elle a un son très très particulier.
Mais toutes les cloches ont des noms d'ailleurs. Hein, oui. On baptise les cloches, je ne sais plus, à Notre-Dame, le glas. Oui. Enfin, il y a des noms, elles ont des noms de femmes, souvent, effectivement.
Et Big Ben, c'est vraiment le nom uniquement de la cloche.
De la cloche elle-même, oui.
Elle s'appelle la Tour Élisabeth.
Alors, je
trois tours, hein, sur le...
Oui, absolument, la Victoria.
Je ne sais pas si l'horaire est respecté, mais en tout cas, si le pas, hein, le rythme qui a été insufflé est respecté, mais en tout cas, on serait a priori à moins de 5 minutes maintenant de l'arrivée de ce cercueil à son avant-dernière destination, hein, puisqu'il sera exposé là pendant 4 jours. Alors là, on peut imaginer aussi que ça va être un balai incessant de recueillement. 4 jours, c'est très long. Est-ce que c'est communément...
Alors, c'est plus longtemps que pour George VI, qui n'est exposé que 3 jours. Mais je ne sais plus, pour la reine-mère, ça devait être aussi, je pense...
3 ou 4 jours.
De cet ordre-là, oui.
Ça n'est pas exceptionnel en soi.
Non, non.
Ben, on voit quand même qu'il y a une petite adaptation, parce qu'on sait que jusque maintenant, ben, c'était 23 heures sur 24 qui était prévu. Là, ils viennent de décréter que c'est 24 heures sur 24. Il n'y aura même plus une heure d'interruption qui était simplement prévue pour un petit peu faire le ménage, un peu nettoyer, en quelque sorte. Cette heure-là, elle a été supprimée, parce que, je vous le disais tout à l'heure, ils ne sont absolument pas sûrs que l'ensemble de la population déjà présente sur place va pouvoir se recueillir.
Oui, parce qu'on imagine que c'est très limité, hein, l'accès. On passe un à la fois. Alors évidemment, on est invité à ne pas s'arrêter.
Il y a vraiment des...
Enfin, ce sera continu. Il y aura des gens qui ne s'arrêteront pas, mais ça va être...
Les données qui sont précises. On demande d'être habillé de façon sombre. On demande de ne pas s'arrêter. On demande de ne pas photographier. On demande de ne pas manifester trop d'émotions, en effet. Et il y a des bandeaux permanents, nous dit-on, qui longent la BBC, qui défilent sur la BBC, et qui, dans le fond, dont le but est un petit peu de dissuader les gens de venir et qui disent emportez avec vous de l'eau, emportez avec vous des médicaments, ne venez pas avec des enfants, ne venez pas avec des personnes trop âgées. Il y a un petit peu un mouvement de peur.
Il y a plus que ça parce que si on reste 20 ou 30 heures, il va falloir installer des cantines, des toilettes, tout ça. Enfin, ça paraît.
Tout ça, j'en cours de...
Alors on sait à peu près quelle est la moyenne, là, à combien on estime la moyenne d'attente avant de pouvoir.
20 ou 30 heures.
Pour l'instant, 35 heures, c'est
un maximum.
Au maximum, 20 ou 30 heures. 20 heures au moins.
On doute que beaucoup patientent à ce point. Enfin, je veux dire.
Il faut manger, il faut dormir.
Oui, à faire du surplace. Même pour les projections de films les plus attendues, on n'a jamais
absolument,
vu ça. Hein.
Puisqu'on sait que depuis plus ou moins l'annonce du décès, enfin je crois le décès est arrivé jeudi, depuis vendredi, on voyait les premières tentes fleurir devant Westminster Abbey pour pouvoir vraiment être présente au moment où la dépouille va entrer dans l'abbaye.
Florian Tardif, le cortège est en train, Florian Tardif est avec nous, le cortège à cet instant, ou à quelques secondes près, passe devant vous, racontez-nous.
Le 10 Downing Street
Alors, Vincent Farandège, vous savez, toutes les télévisions du monde sont là. Donc, vous imaginez aussi, entre ceux qui passent des coups de fil, qui prennent qui font des vidéos en live, les réseaux sont évidemment très saturés. On les voit, tous ces gens qui ont le téléphone levé vers le ciel. Ça, c'est aussi une nouveauté quand même, hein, par rapport aux autres célébrations, commémorations.
Il y avait
Vincent Farandège et son parcours, évidemment, avec un invité témoin de la scène.
Oui, absolument, même deux invités, c'était nos voisins de foule, j'allais dire, depuis très tôt ce matin. Ils ont attendu avec nous pendant 5 heures de voir le cercueil de la reine tout à l'heure. Ils ne se connaissent pas et pourtant, après le passage du cercueil de la reine, il y avait ce silence d'ailleurs tout autour de nous et ils se sont fait ce qu'on appelle un hug, chère Nelly. Ils se sont fait un câlin pour se réconforter parce que c'est vrai qu'ils avaient tous les deux les yeux un petit peu humides. On va commencer avec Laura. Laura, thank you for being with us on French TV. Merci d'être avec nous à la télévision française. How would you describe the moment that you just lived right now? Comment vous décririez le moment que vous avez vécu il y a quelques minutes, le passage du cercueil de la reine?
It was incredibly moving, extremely emotional. The Queen has been and always will be held in the highest regard and I feel incredibly proud to be here to pay a final respect to such a wonderful lady.
La reine a toujours été un exemple, a toujours été énormément respectée en Angleterre et Laura est très satisfaite d'être ici pour lui rendre ce dernier hommage aujourd'hui. C'était très émouvant, nous a-t-elle dit tout à l'heure. On va voir John qui est, je vous le rappelle, vétéran de l'armée britannique. John,
you were quite sad, of course, when I saw you, your attitude being a little bit sad when the coffin was just here. Je vous ai vu un petit triste, ému en tout cas quand le cercueil est passé tout à l'heure.
We've just witnessed a major part of history, the end of the Elizabethan era through which everyone here has lived, and she will never be forgotten. A very hard act to follow, but I'm sure that King Charles will be equally up to the challenge and be a wonderful king for the whole of the United Kingdom.
Nous avons tous vécu sous l'ère d'Elisabeth II. Elle ne sera jamais oubliée. On se rappellera toujours de la reine Elisabeth II, nous a dit John. Et évidemment, tous les Anglais, tous les Britanniques qui sont autour de nous, y compris John et Laura, sont derrière le roi Charles III. Ils sont sûrs qu'il fera un excellent roi et qu'il passera un excellent règne également.
Merci beaucoup pour ces témoignages. Et puis de Vincent va rejoindre Florian, parce que Florian, vous êtes désormais aux premières loges, c'est-à-dire que le cortège passe ou vient de passer il y a quelques secondes maintenant devant vos yeux. Parfois
n'autre. De pas parler.
Non, parce que c'est lui qui a demandé justement qu'on aille le voir. Bertrand.
On peut peut-être préciser que la grande procession militaire, en quelque sorte, elle a lieu là pour l'instant, c'est celle que l'on découvre, puisque le parcours ici, il fait 2 kilomètres entre Buckingham Palace et Westminster Hall qu'ils sont en train de rejoindre, alors que lundi, la distance est beaucoup plus réduite, parce que pour rejoindre Westminster Hall de Westminster Abbey, il sera de 400 mètres. Donc ça va être beaucoup plus rapide.
Oui. Mais après, ce sera encore une autre séquence beaucoup plus funéraire à proprement parler, qui va s'ouvrir et qui sera réservée, là, on le sait, hein, lundi après-midi, aux dignitaires étrangers. D'ailleurs, on pourra revenir peut-être à la cérémonie en elle-même, à ce point d'orgue finalement des funérailles d'Elisabeth II.
Parce que les records
d'affluence. Deux maximum par pays.
On parle de 4 milliards de téléspectateurs.
En tout cas, le record de plusieurs milliards, oui, peut-être 3 ou 4 milliards. Ah oui, et sur place, bien sûr. Ce sera lundi, oui.
3 milliards de téléspectateurs, ouais.
Oui, la moitié de la planète
sera... C'est difficile
à
évaluer.
Je pense que...
Harry et Meghan, au moment du mariage, on frôlait les 3 milliards. On était à 2,8, je crois.
Pour le mariage
de Harry et Meghan à Windsor. Et là, j'ai vu qu'on annonce environ 4 milliards, ce qui serait presque unique au monde.
Oui, ça ne reviendra jamais. Enfin, il n'y aura jamais autant de monde. Hein.
Donc là, on approche de la fin de la procession. Voilà, tout le monde est à l'arrêt. On va laisser vivre l'image.
Bearer party, 6 paces outwards, march. Stand still. Bearer party, prepare to turn. Prepare to race. Race. Bearer party, inwards. Turn. Farrah party. Prepare to turn. Turn. Farrah party. Slow. March.
Thank you. Dieu, notre Créateur et notre Sauveur de l'humanité, qu'il nous accorde par sa servante, la Reine Élisabeth, et tous les défunts qui croyaient la passion de son Christ, de son Fils et la résurrection du Christ, pour qu'au dernier jour, quand tout sera réuni en Christ, nous puissions avec eux profiter des promesses faites par Jésus, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ne laissez pas votre cœur être triste, car ceux qui croient en Dieu croient également en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreux endroits où être accueilli. Et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. J'y vais pour préparer pour vous l'accueil. Et si c'est là que je vais et que je prépare votre accueil, je reviendrai et je vous recevrai en moi. C'est pourquoi là où je me trouve, c'est là où vous vous trouverez un jour, peut-être. Et là où je vais, vous savez où cela se trouve et vous connaissez le chemin. Comme cela a été dit, Seigneur, nous ne savons pas où nous avons, où nous allons, mais comment pouvons-nous connaître le chemin ? Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'y a pas d'homme qui arrivera au Père sans passer par moi. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, en qui ceux qui croient vivront, et ceux en qui ils vivent ne mourront pas pour l'éternité, qui nous a également appris de ne pas nous désoler, de ne pas perdre l'espoir, car les hommes dorment en lui. Nous te demandons, cher Père, de nous élever du péché et de nous ramener à la vie, et pour ceux qui quittent la vie, quand nous nous endormirons, que nous reposions en toi. Nous te le demandons pour notre sœur, et lorsque la résurrection aura lieu au dernier jour, que nous trouvions acceptable cette mort au dernier jour, car nous verrons ton amour, car tous ceux qui l'aiment fermement, venez à moi, enfants bien-aimés de mon Père, le royaume est prêt depuis le début du monde. Nous te demandons, Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton intercesseur et notre Sauveur. Amen. Comme nous l'a appris et demandé notre Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
O God, the protector of all who trust in thee.
Protecteur de tous ceux qui croient en toi, sans qui rien n'est fort, rien n'est espoir. Christ, étends sur nous tes bénédictions, sois notre chef et notre guide, qu'avec ta aide, nous puissions traverser cette épreuve. Nous te le demandons, Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Par Dieu, nous te confions à sa pitié, que Dieu vous protège, que Dieu vous montre sa face rayonnante et qu'il vous accueille, que Dieu vous montre sa lumière et vous apporte la paix. Et la bénédiction du Père Tout-Puissant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit avec vous pour les siècles des siècles. Amen.
Alors, il le dit.
Voilà, fin de cette procession, puis suivie d'une brève cérémonie pour l'installation donc, du cercueil d'Elisabeth II dans cette enceinte de Westminster Hall, où elle restera pendant 4 jours. On va évidemment commenter tout cela avec vous, tandis que le cortège royal est en train de quitter les lieux. Maintenant, d'une certaine manière, Elisabeth II, elle est remise aux Britanniques, elle appartient quelques jours au public, avant les funérailles beaucoup plus solennelles qui, elles, on le rappelle, sont prévues lundi après-midi. Bertrand de Kers, beaucoup de symboles, beaucoup de choses à noter au cours de cette brève cérémonie, mais quand même très, très dense avec, on l'a tous vu, la famille royale, là, au grand complet, pour le coup. Hein.
Oui, absolument, la famille royale au grand complet. On a vraiment zoomé que sur les membres très, très proches, mais ils étaient tous absolument présents dans Westminster Hall, qui est vraiment ce hall des rois, qui est vraiment, vous le dites, au fond, on rend le corps du souverain à la nation. Elle lui est donnée énormément de symboles. On a notamment vu le drapeau privé d'Elisabeth II qui un peu s'effondrait au pied de la dépouille. Et j'ai vraiment eu l'impression, pour le coup, que lorsque l'on voyait le visage des Windsor, le peu qu'on a zoomé sur eux, on avait l'impression qu'eux aussi était un peu surpris par tout ce protocole, était un peu, voilà, ne s'attendait pas forcément au faste que l'on vient de connaître. Pour le coup, là, c'est la couronne. On voit vraiment que la couronne a repris ses droits.
Andrew Simkin, un petit commentaire sur cette cérémonie d'environ 25 minutes tout de même, hein, qu'on vient d'apercevoir.
Moi, je suis ébloui par la beauté, la solennité. Et bon, penser que cette dame extraordinaire dans cette boîte, sur cette... ce piédestal qui s'appelle le catafalque, elle s'offre à nous. Elle est passée d'un espace privé, la ballroom de Buckingham Palace, à l'endroit ouvert au public. Et c'était absolument magique. Ça me rappelle, comme je disais hier, la basilique de Saint-Denis. On a l'impression de voir le statuaire funèbre de l'époque de Charles XII, mais en vrai. Et tout bouge, tout est en couleur. C'est absolument fabuleux.
Vous parlez de couleur, Philippe Delorme. Rappelez
oui,
l'importance
revenir
de cette
à la
couleur
France,
violette.
C'est vrai que le dernier enterrement royal, c'est à Saint-Denis. C'était Louis XVIII. Hein, et on a encore d'ailleurs les régalias, le manteau, tous les objets qui ont servi à cet enterrement, qui sont à Saint-Denis, mais qui sont derrière une vitrine. Là, ce qui est formidable en Angleterre, c'est que ce n'est pas derrière une vitrine. Ça sert encore, c'est toujours utilisé. Et là, on a vu effectivement, on le voit sur cette image, hein, toute la famille royale, c'est-à-dire aussi bien... Il y avait Meghan, d'ailleurs, avec Harry. Il y avait William et Kate, etc. Mais il y avait aussi les branches cadettes, les Gloucester, les Kent, qui étaient là. Donc, vraiment, la famille très large. Hein. Tous les enfants,
les petits-enfants de la reine.
12 arrière-petits-enfants. Alors, les 12 arrière-petits-enfants n'étaient pas là parce qu'ils sont, petits. D'ailleurs, on se pose la question de savoir lesquels seront là lundi. Probablement George et probablement sa sœur Charlotte parce qu'ils sont en âge. Et puis... peut-être 2 ou 3 autres, mais les plus jeunes, bien sûr, seront réservés. On se souvient de Charles au couronnement de sa mère, qui manifestait quelque impatience et voilà, qui montait sur la tribune. Donc là, je pense qu'ils vont éviter ça et ne privilégier que les
Alors,
enfants.
Alors, Charles, cette image est intéressante aussi. Bertrand de Kers, Charles, il fait le trajet retour en voiture cette fois jusqu'au palais. Notons que. Ça va devenir sa résidence désormais.
Et oui, c'est déjà, sa résidence. C'est officiellement sa résidence. Maintenant, la question que l'on se pose, va-t-il choisir de l'occuper, oui ou non ? C'est la résidence officielle. C'est surtout son bureau, en réalité. Hein, c'est la résidence administrative. Vous souhaitez écrire à la famille royale, vous écrivez au palais de Buckingham, même si on sait que le siège, vraiment, c'est le palais Saint-James. Mais dans le fond, c'est le symbole. Voilà, maintenant, là, il rentre à Buckingham Palace. Va-t-il y dormir ? C'est la question que l'on se pose.
Apparemment, il n'y a pas dormi, parce qu'on l'a vu arriver tout à l'heure. Voiture.
Andrew, vous avez une information là-dessus?
Oui, non, c'est intéressant parce qu'il passe devant sa vraie maison. Il habite à Clarence House. Il passe juste devant. C'est un magnifique hôtel particulier qui donne sur le Mall.
On peut imaginer qu'il n'ait pas envie de déménager.
Je pense qu'il a envie d'y rester. Et on parle d'une ouverture même plus importante de Buckingham.
Oui.
Donc, ce qu'il aime, c'est Highgrove, là où il a ses activités d'agriculteur biologique. Et là, je pense qu'il aurait envie de rester à Clarence.
Mais en même temps, on a vu que la reine vieillissante était plutôt à Windsor. Elle pensait même peut-être y rester de manière un peu définitive. Et puis, si on revient en 1952, déjà, Philippe et Elisabeth habitaient à Clarence House en tant que prince héritier et princesse héritière. Et puis, Philippe n'avait pas tellement envie d'y aller à Buckingham, mais finalement, il y est allé quand même. Donc, je pense que Charles va y aller quand même, finalement.
Bertrand Decker, puis Jean Garriga.
Oui, je voudrais simplement dire, il y aurait tant et tant à dire, mais regardez, sur ce catafalque qui est très impressionnant, il est de couleur purple, en anglais, de couleur pourpre. C'est une couleur vraiment... Mon t-shirt. Pourquoi ? Parce que c'est une couleur intimement associée à la famille royale. Vous voyez que le velours du coussin de la couronne d'État, elle est purple, elle est pourpre également. On sait que le manteau de sacre qu'a porté Elisabeth II pour pénétrer à Westminster...
Pourquoi ? Parce que le pourpre, c'est la couronne des c'est la couleur des empereurs romains. On la fabriquait avec un murex qui était une sorte de coquillages extrêmement précieux qu'on trouvait en Phénicie, sur les côtes libanaises actuelles. Et donc, ça permettait de faire cette fameuse couleur qui est la couleur de l'Empire.
Voilà. Donc, tout à nouveau est symbolique et à nouveau, tout ressort du fond des âges. Ouais. C'est vraiment à ce
Jean Garrigue, on va juste faire un petit pas de côté et revenir quand même à la personne du roi Charles III et à cette mission politique aussi qui est la sienne désormais de préserver l'unité de la couronne. Ça n'était pas chose aisée, ou ça ne sera pas chose aisée avec les Nord-Irlandais, on le sait, avec l'avènement du Sinn Féin en plus au Parlement. L'Écosse, bon, on connaît aussi ses velléités sécessionnistes. Il a une lourde charge, même si on a coutume de dire le roi ne fait pas de politique. Mais là, c'est vraiment la survie de la couronne qui est en jeu, d'une certaine manière.
Oui, oui et non, parce que ce que nous montre cette cérémonie, c'est à quel point, au fond, c'est toute l'histoire du Royaume-Uni qui s'auto-célèbre aujourd'hui. On le voit bien, rien que sur cette image, je veux dire qu'elle est recouverte de l'étendard et le drapeau individuel, j'allais dire, le corps privé de la reine s'efface devant la continuité dynastique. Et donc Charles, qui connaît bien quand même le fonctionnement de ces institutions, j'avais rappelé il y a quelques jours qu'il avait été le premier admis à un conseil des ministres, ce qui est rarissime. Quelqu'un qui connaît très bien la politique britannique, le fonctionnement des institutions, et nul doute qu'il va trouver le ton juste pour tenir son rôle. Il s'agit de tenir un rôle, ce qui est très important, et c'est un rôle fondamental, puisque c'est lui qui assure cette unité, cette continuité de...
Alors justement, va-t-il maintenir... Est-ce qu'on sait déjà, Andrew Simkins, il va maintenir le rendez-vous hebdomadaire qu'observait sa mère, le sacro-saint rendez-vous du mardi après-midi avec le Premier ministre.
Pourquoi changerait-il une
Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est propre, effectivement, au protocole ou c'est vraiment Elisabeth II qui l'avait institué?
Absolument pas. Il va certainement continuer ça. Et nous savons qu'il aime la politique. Il n'a plus le droit. Vous vous souvenez, on parlait de toutes ces lettres qu'il envoyait de nombreux gouvernements avec ses pattes de mouche.
C'est fini, donc, ça.
Maintenant, c'est fini. Il n'a pas le choix, mais il va trouver le moyen de faire passer ses messages. Mais
il va recevoir déjà, je pense qu'il les reçoit déjà, parce que sa mère était fatiguée, les red boxes, vous savez, ce qui sont des boîtes de cuir rouge dans lesquelles il y a les comptes rendus des différents ministères, les décrets à signer, parce que finalement, le roi signe toutes les lois. Il n'y a rien de ce fait légalement en Angleterre sans la signature du roi. Il n'y a pas de Premier ministre sans le roi.
Donc il prend connaissance d'absolument tous les textes qui ont été ratifiés.
Il est la clé de voûte, si vous voulez. Comme dans une architecture, c'est la clé de voûte. Il ne bouge pas, mais s'il n'est pas là, tout s'effondre.
Et il exprimera peut-être des sensibilités auprès des différents ministres des différents premiers ministres, je le suppose, qu'il va avoir à côtoyer, comme l'avait fait Elisabeth II, mais de manière d'abord discrète, secrète, et puis en gardant cette distance qui convient à la fonction. Je veux dire que c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'il va se couler dans ce moule tout à fait naturel.
Il y avait déjà une période de transition puisqu'il assurait les missions officielles.
Il a le droit de conseiller. Dans le rôle du monarque, ce n'est pas de fermer sa bouche. Non, c'est aussi de conseiller, c'est-à-dire de dire...
ce que vous faites là, est-ce que vous pensez que c'est bien ? Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas faire autrement ?
Mais sans
il
prendre...
Il n'a pas de force coercitive. Mais
un dernier mot, puisqu'il nous reste moins de deux minutes, Bertrand Descartes, j'aimerais juste... Et on va s'attacher, on va s'appuyer sur cette image très forte. C'est ici, précisons pour ceux qui nous rejoignent à 16h37 désormais, c'est ici que va se dérouler la déambulation du public hein, autour du cercueil. On voit bien que c'est un espace qui est quand même assez vaste, assez large, pour fluidifier justement les passages successifs. Ça a été bien pensé selon vous ?
C'est la plus vaste et vieille salle d'Europe, hein, construction en 1097, 73 mètres de long, plus de 30 mètres de hauteur sous plafond pour atteindre cette fameuse nervure voûte en bois que l'on a aperçue tout à l'heure. Et je vous disais, voilà un cérémonial qui est incroyable. 5 régiments, nous dit-on, vont prendre place en alternance autour de la dépouille d'Elisabeth II. Et on a reconnu, par exemple, parce qu'ils ont un costume Tudor très symbolique, ce qu'on appelle les hiéromènes de la guerre, qui sont peut-être un peu les plus célèbres. Ils ont un costume un peu Renaissance, un peu Tudor, on l'a vu tout à l'heure. Ils ont notamment en charge à la Tour de Londres, dont on parlait tout à l'heure, la protection des joyaux de la couronne.
Et puis, il faudra changer les cierges aussi, hein, tout au long des 4 jours. Vous voyez, ces 4 cierges qui cernent le cercle.
Deux symboles doivent encore arriver. On en parlait tout à l'heure. L'orbe, donc, et le sceptre devraient également être posés dans les heures qui vont.
Tout dernier mot. Et puis
oui, on n'est pas certain que pendant les 4 jours qui viennent, tout le public va pouvoir finalement défiler parce qu'on attend plusieurs millions de personnes, je pense. Et peut-être que les derniers eh bien, ne pourront pas entrer.
Il va falloir s'armer de patience. On imagine qu'à un moment donné, dans la queue, on va peut-être fermer l'accès.
La queue va faire 5 miles. Donc
c'est ça, mais pour éviter que les derniers n'aient aucune chance d'y accéder, voilà, il faudra s'armer de patience entre 25 et 30 heures.
Si on fait une comparaison, c'est comme si on démarrait la queue au pied de la Tour Eiffel et que ça se prolongeait jusqu'à Bercy.
Incroyable.
Vous tellement, voilà, parce
faut que vraiment avoir envie famille, de l'apercevoir.
C'est vrai que les trains sont complets de Paris à Londres.
Ah ben bah ça, c'est, vous pouvez oui. en être sûr, vu les l'affluence hôtels qui est attendue. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné cet après-midi. Dans un instant, c'est Laurence Ferrari qui prendra la suite sur notre antenne, Punchline bien évidemment. Et moi, je vous dis à demain pour sans doute encore de très belles images en provenance de Londres. Merci à tous. Excellente soirée sur l'antenne de CNews.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.